gente en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
Nous sommes en direct sur la radio Canal Sud. Nous ne sommes pas le premier vendredi du mois de septembre, c'est le deuxième, mais bon, c'est quand même la rentrée. Et c'est l'exposition à Canal Sud pour tout le mois de septembre. Alors, une super exposition collective qui s'appelle « Les chemins du mescal ». Et pour en parler, ben un peu l'initiateur, l'organisateur de cette exposition, mais qui n'est pas... Si, il y a des œuvres que tu as réalisées.
Non.
Qui n'est pas, voilà. Et qui va donc nous parler de cette initiative, de cette idée. Alors d'abord, cette idée de présenter à Canal Sud les chemins du mescal. Ça veut dire quoi, ça, ces chemins du mescal?
Oui, d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe de Canal Sud pour l'exposition, pour la possibilité d'exposer ici. C'est une exposition collective, effectivement, des artistes mexicains, notamment oaxaqueños, de l'état de Oaxaca au sud du Mexique, et côté Pacifique. Il y a 12 jeunes et artistes, en fait, qui proposent cette exposition qui s'appelle, intitulée « Les chemins du mescal ». C'est en fait une collaboration qui est faite avec eux. Nous, ici en France, on est trois Mexicains, trois amis qui ont monté un projet qui s'appelle La Mezcaleria, qui ont fait des dégustations, des vins, des présentations autour du mezcal, de la culture de l'agave. En fait,
le mezcal, donc, ça vient de...
De la plante de l'agave.
Et l'agave, c'est comme un cactus, un tout grand cactus, mais qui ne pousse qu'au Mexique.
Tout à fait. Et endémique, en fait. Il y en a 180 espèces, donc 160 qui grandissent qu'au Mexique, en fait.
D'accord.
Et du coup, c'est une boisson assez vieille, connue au Mexique, notamment dans le sud du Mexique. Et du coup, on a demandé de faire... On s'est arrangé pour faire un partenariat, une collaboration avec ces artistes-là. Et on a ces ouvrages-là depuis les mois de février de cette année, en fait, et on cherche des lieux pour faire des expositions collectives, en fait. Voilà. Dans ces cadres-là, nous, on fait la mezcalerie ici à Toulouse, on propose des dégustations de mezcal, un peu de cuisine mexicaine. C'est le cas aujourd'hui, voilà. Et du coup, on parle aussi des ouvrages et de ces groupes de personnes qui sont artistes. Il faut savoir qu'à Oaxaca, notamment dans le sud du Mexique, donc, il y a beaucoup de courants, en fait, et des mouvements autour de cette technique qui s'est assez développée.
Oui, donc c'est la xylographure, c'est...
Tout à fait, c'est...
Gravure sur bois.
Gravure sur bois. Mmh. Et ces gens-là, ils travaillent avec des artisanats, en fait, qui font leurs machines, leurs papiers, tout ce monde, en fait, là.
Et l'encre, c'est mettre de l'encre...
Normal, en fait,
Ouais. Puisque donc on a un résultat d'impression noire sur blanc, enfin, ou beige, ça dépend, mais
tout à fait. Après, la couleur est choisie par...
Ça ressemble à une lithographie, comme on dirait ici, mais à part que la technique est une technique originale et très populaire, ou en tout cas très connue, ancienne.
Tout à fait, c'était le cas en France, jusqu'à il y a... peu de temps, mais après, là, avec la numérisation, ça a changé très, très vite, en fait.
Et puis avec l'imprimerie, nous, ici.
Oui, tout à fait.
L'imprimerie aussi a enlevé...
Au début des siècles derniers, il y avait notamment pas mal des personnes qui faisaient ce type de travail, en fait.
En fait, tu fais comme une pyrogravure ou un truc comme ça, on grave le bois.
En fait, on grave le bois, après, on fait des impressions, sur des papiers, et après, on a les machines qui font les tirages, en fait.
Oui, oui, pour en faire quelques exemplaires.
Voilà. D'accord. Et dans ces cadres-là, il y en a donc 14
ouvres. D'un grand format quand même.
Tout à fait, 50 pour 70.
Oui, oui.
Et bien sûr, les ouvres sont à la vente. Nous, on ne prend pas de bénéfices. C'était les deals en fait accordés. C'est des prix assez accessibles en fait. Il ne faut pas s'étonner si des fois vous n'avez jamais eu la possibilité de voir cette exposition ailleurs et que les prix étaient plus élevés, puisqu'en fait c'était des contraintes un peu commerciales qu'on a.
Du lieu, tandis qu'à Nat-Sud, il n'y a pas de contraintes commerciales.
Tout à fait.
Voilà. D'accord. C'est du direct pour justement ensuite aider les populations, aider les gens là-bas à vivre.
Leur travail. D'abord, c'est le travail. Il faut savoir qu'à Oaxaca, il y a une communauté, on trouve de la gravure partout, de la xylographie partout. À la ville de Oaxaca. Il y a beaucoup de styles. Hein. Cet style-là, c'est assez particulier.
Ceux-là, ils sont... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont... qui font référence beaucoup à l'histoire, non ?
Oui.
La mythologie, non ?
La cosmovision, ils s'appellent ça. La cosmovision, en fait, c'est un concept assez... qui vient de la manière de voir la vie des peuples originaux au Mexique, en fait, et qui expriment la vie autrement. Et dans ces cas-là, ces artistes-là, il faut quand même les signaler.
Leur lien avec le cosmos, avec les étoiles, avec les noms, avec quoi, non ?
Pas tout à fait, non.
Cosmovision, c'est... j'avais compris ça, moi, non ?
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est, en fait, c'est une autre manière de voir, à part l'Occident, si vous voulez. En fait. Et après, ces artistes-là aussi, ils tiennent beaucoup, ils sont en lien avec ces boissons-là. Ils boivent tous les gens de mezcal. Il y a beaucoup des choses qui viennent de leur propre inspiration. Hein. Ce n'est pas des imaginaires ou des représentations comme on tient à penser des ouvres. Ici, ce n'est pas trop le cas. Même si c'est de ce style-là, c'est un peu qui nous remet à des imaginaires un peu préhispaniques, on va dire.
Mais disons qu'on retrouve des... Enfin, c'est pas des représentations préhispaniques, mais on retrouve quand même... Alors, je sais pas que ce soit... des fois, c'est comme des grandes plumes, d'autres fois, c'est... Ça dépend, quoi.
Tout à fait. Il y a une sorte de vouloir exprimer, en fait, l'importance de ces plantes-là dans la culture, en fait, à l'heure actuelle aussi. Mais aussi, il y a deux, trois, quatre cadres, je dirais, qui sont autour de l'élaboration, du processus d'élaboration même du mezcal. Oui. Du coup, on voit les maestros mezcaleros, en fait, en train de plier.
Oui, alors, parce que pour faire du mezcal, alors, c'est à partir de la feuille de cactus ?
Non, c'est le cœur, en fait.
Le cœur, ouais, voilà. Comme on prendrait un cœur d'artichaut, quoi.
Tout à fait, oui, tout à fait. En fait, quand on fait la collecte, c'est pas tout à fait une collecte, en fait, quand on tue la plante, est-ce que c'est ça ? C'est après au moins 6 ans
macérer.
Il faut attendre 5 ans.
Il faut qu'elle ait 5 ans, voilà. Maturation.
Oui, maturation, voilà.
Mais il faut que la plante ait 5 ans. Ouais.
Voilà, au moins, voire plus. Et après, il faut savoir que dans le monde du mezcal, il y a deux types de
Un mezcal, ça vient du nom d'une montagne ?
Non, le mezcal, ça vient du Nahuatl. Mais c'est la parole, les racines, c'est maître et iscali, qui ça veut dire l'agave cuit.
Tout simplement. Voilà,
c'est l'agave cuit.
Ah, d'accord. Voilà. Les maîtres de l'agave cuit.
Voilà,
d'accord.
Tout à fait.
Alors, on revient, on prend le cœur d'une plante qui a au moins 5 ans.
Voilà, après, on la tue, quoi.
C'est beau quand tu dis on la tue, tu vois. Voilà, Cosmos Vision.
Oui, parce que c'est ça. C'est ça, en fait.
Nous, on ne dit pas ça. On dit on arrache
ici,
la plante.
Mais... On a rencontré des gens qui nous disent ah oui, la taille de l'agave. En fait, c'est pas la taille. On la tue. C'est fini. Mm-hmm. Elle ne pousse plus, là. Et du coup, on la amène chez les. C'est les palenques, on appelle ça la fabrique, quoi.
Ouais.
On les cuit dans des fours de terre. C'est une différence par rapport à la tequila, par exemple. La tequila, l'industrie notamment de la tequila, elle va prendre ces mêmes corps d'agave et elle va les mettre dans des fours industriels. D'où les goûts qui n'est pas trop fumé, qu'on trouve dans les mezcals.
Oui, lui, mezcal. C'est comme dans un four en terre.
Tout à fait, en terre, et puis avec notamment deux bois, comment il s'appelle ces bois, j'ai oublié le nom, qui prennent pas mal de goût.
Mm-hmm.
On les laisse cuire 3 jours, et après on les presse. Bon, pas tout à fait. Après, on les fait fermenter.
Fermenter,
et après on les presse. Après, on fait la distillation.
La distillation du jus qui est arrivé.
Voilà.
C'est quand même un sacré... Mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on en discutait. C'est après quand tu dis justement macération, cuisson et ensuite distillation, comme ici tu ferais l'armagnac ou le cognac, quoi. C'est un petit peu puisque c'est à partir d'un vin déjà travaillé et après on distille.
Tout à fait. Ouais, y a même des questionnements autour de la valorisation donc de ces boissons. Et si on se met à comparer tout ce qui est les processus depuis la collecte, on va dire, voilà. On tient que voilà, il y a plus de travail dans son processus de mezcal que dans d'autres distillés.
Et est-ce que les gens ils le faisaient chez eux?
Oui, tout à fait. Et en fait, il faut toujours dire que c'est grâce notamment à la communauté des Indiens au Mexique que le mezcal il a tenu. Et si à l'heure actuelle il devient un peu à la mode entre guillemets, c'est grâce aux paysans et aux Indiens qui pendant des années avec l'interdiction de la couronne espagnole, parce qu'ils étaient interdits d'avoir des alambics, en fait. Comme ici, comme partout.
Non, voilà. Ici, c'est très réglementé, mais on ne peut pas en avoir un chez soi, en effet.
Mexique, c'est interdit. Et c'est grâce à eux à faire, en fait, quelque part, des mezcal cachés, que cette technique a évolué. Du coup, ces personnes sont transmises des connaissances par des traditions. Et c'est pour ça aussi qu'on revendique à l'heure actuelle la question du mezcal en tant qu'une boisson traditionnelle et pas tout à fait artisanale. Il faut faire la différence entre la traditionnelle et l'artisanat. L'artisanat, on peut tous et toutes faire, entre guillemets, mais la tradition, il faut la connaître quand même.
Bah oui, n'importe qui ne peut pas faire.
Ouais.
Oui, d'accord.
Tout à fait. Et c'est grâce aux populations indiennes. Et d'ailleurs, c'est tout à fait le cas. Il y a un débat, il y a des lois qui sont voulues passer justement pour vouloir et leur emprunter ce nom de mezcal. Comme la tequila, quelque part, faire une dénomination d'origine contrôlée, mais il y a eu des mouvements, notamment des personnes qui sont dans les milieux, quoi, qui sont dénoncé ça, et c'est arrêté pour l'instant, mais ça continue toujours la lutte, en fait.
Je suis en train de faire des associations d'idées dans ma tête, parce que on s'est souvent aperçu que, par exemple, notamment les Américains et d'autres colonisateurs, pour soudoyer les autochtones, leur ont amené du whisky, d'eau de vie, des trucs comme ça. Et je me dis, mais peut-être que les Mexicains, comme ils avaient la leur, ils n'ont pas pu. Et c'est peut-être ce qui expliquerait un petit peu que ce pays et ces peuples, parce qu'il y en a plusieurs, restent entiers, intacts et toujours un peu rebelles. Oui,
tout à fait. Il y a trois théories en fait, autour des origines de mezcal, et sachant que l'agave l'agave en tant que plante, ça a été toujours utilisé dans les cultures préhispaniques. On faisait des tissus, on utilisait les feuilles pour faire cuire de la viande. En fait, on l'utilisait en tant que médicament, bon, plusieurs usages, quoi. Aussi, on les utilisait pour mettre des limites, en fait, des serres. Voilà. Mmh. Et voilà, il y a une utilisation sociale.
Comme on fait sur les cactus, sur les figuiers de Barbarie en Afrique du Nord, quoi. Oui, d'accord.
Mais après, la question.
Ça fait clôture, quoi. Ouais, ouais.
La question est plutôt à partir de quand il y a eu l'alambic. Et c'est quoi ce type d'alambic? Du coup, on part sur trois théories, hypothèses plutôt. C'est les Espagnols sont amenés l'alambic, arabe d'ailleurs. Après, la deuxième hypothèse, c'est les Philippins, en fait, plutôt. On part des 1500 quelque chose, au 6e siècle. Après, on dirait les Philippins, en fait, qui sont arrivés, puisque c'était une colonie espagnole. Et la troisième qui est en train de se développer avec tous les études de décolonisation, anticolonisation, etc., etc., vont plutôt vers la question que les Indiens ils connaissaient des manières, des techniques de distillation à partir des cuirs des terres, en fait, voilà. Des marmites de terre, et voilà, qui faisait ça. Puisqu'il y a eu notamment
Oui, parce que tu peux faire un alambic de terre fermé, parce qu'il s'agit de faire quelque chose de fermé, et qui après, juste une ouverture pour...
Ouais, c'est pas si évident, mais c'est pas si évident, mais on peut dire qu'il y a un peu...
Il faut voir s'ils en ont trouvé des traces ou pas.
Ouais, ils ont trouvé des traces. Après, il y avait des contestations par rapport justement à la question de la température, à quoi il faut chauffer, tout ça, mais non, c'est pas ça la question. En tout cas, ce qui est en réalité, et on ne peut pas les nier, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que grâce à un Indien, pendant 200 siècles, qui était interdit, c'était les boissons des pauvres jusqu'à 80, les années 80 de ce siècle, en fait, le dernier, personne ne voulait voir mezcal au Mexique, à part les Indiens, les personnes qui étaient à la campagne, quoi. Et maintenant, tu trouves des mezcal partout, et hyper cher. Voilà.
Voilà.
Du coup, il faut les paysans, ou plutôt les personnes, sont en train de se mobiliser pour dire. Voilà, il faut informer les gens, il faut savoir comment reconnaître un bon mezcal. Il y a toute une question de mercado technique, il faut s'éloigner de ça, bien entendu. Mm-hmm. La question de voir les étiquettes, de voir je ne sais pas quoi. Les étiquettes, puisqu'il y a il y a la chambre de mezcal, en fait, qui régule, en fait.
Ah oui, ils veulent normaliser. Or, normalement, puisque c'est une tradition, aucun mezcal ne ressemble à un autre s'il est fait différemment.
Tout à fait.
Quand tu dis qu'il y a 160 sortes d'agaves, donc ça doit dépendre de laquelle on prend. Elles ne doivent pas avoir...
Il y a 160, mais il y en a 30 avec lesquelles
on peut faire le mezcal. Mais ça fait quand même 30 différentes.
Et puis, ça ne se ressemble pas. Les plantes qui sont en Espadine, dans le sud, qui partout dans la Mexique, qui en trouve ça, c'est la plante la plus commune, en fait. C'est différent. C'est pas la même espèce, en fait. C'est ça qu'il faut savoir.
C'est pas les mêmes espèces qu'on utilise.
Tout à fait.
C'est même pas celles qu'on voit partout sur les routes.
Tout à fait. Même si la famille, c'est la même, en fait, c'est compliqué.
Oui, tout à fait.
Après, il y a aussi la question des agaves sauvages et les agaves cultivables. Mm-hmm. Les spadines, qui sont les agaves plus connues, c'est cultivable. Mm-hmm. On les récolte, on les tue tous les 5 ans, 6 ans. Et après, les sauvages, il faut chercher dans la montagne et trouver. Du coup, il faut voir que...
C'est dommage quand même, parce que là, comme tu dis, quand on coupe la plante, on la tue. Là, il vaudrait mieux pas trop...
Justement, il y a eu des moments pour dire non, il faut arrêter de consommer l'agave sauvage parce qu'il va disparaître et tout ça. Et du coup, il y avait des gens qui disaient, mais attendez quand même, puisque c'est pas l'effet de faire des mezcal sauvage qui va faire disparaître de la plante. Si on continue à laisser ces maîtres, en fait, indiens, faire des petites productions, puisqu'ils font des petites productions en fonction des fêtes des villages. Tu vois, par exemple, ils ne vont pas faire en fonction d'une commande, par exemple. Mm-hmm. Et ces gens-là, ils sont des connaissances, entre guillemets, de tous les contextes, de tous les milieux. Voilà. Mm-hmm. Et du coup, quand ils disent, voilà, cette année, si je fais 300 litres admettons, une variété très connue, les Tobala, si je fais 300 litres et je trouve 150, je m'arrête là. Je ne vais pas aller chercher dans toute la campagne jusqu'au moment d'arriver à réunir 300 litres.
Mm-hmm. Après, c'est ce qu'on appelle un peu, ils essaient d'appeler l'agriculture raisonnée, mais ça, c'est le bon sens des gens qui vivent et qui vivent là et qui justement ne veulent pas faire de commerce. Quoi.
Et à travers la cosmovision, on revient à la même chose, en fait, quelque part. Ces gens-là qui sont, en fait, une manière de voir différent. Oui. Après, il y a voilà.
Ils sont tout à fait en harmonie, en connaissance de leur milieu, de leur environnement.
Ouais.
Après, et respect aussi, ils le respectent.
Oui, tout à fait. Après, il y a des petits restos maintenant qui se mettent à faire à valoriser un peu la question du mezcal, les restos de distribution plus équitables entre guillemets, mais c'est toujours le même problème. Dès qu'il y a l'État, c'est compliqué puisque l'État il va taxer 70% des boissons alcoolisées. Mmh. Du coup, gérer ça, c'est impensable. C'est, voilà.
Ah ouais,
même c'est... ici, c'est pareil, c'est la même chose.
Oh, oui, de toute façon. Et le mezcal, par rapport aux artistes, est-ce que ça joue le même rôle qu'à une époque, l'absinthe en France, on disait que ça rend fou, que les artistes en abusent pour après, justement, pouvoir peut-être créer des choses imaginaires, parce que c'est quand même un alcaloïde, comme on dit, donc qui a des effets sur l'organisme.
Oui, il y a des écrivains qui peuvent faire référence à ce type d'inspiration, on va dire. Mais c'est pas tout à fait le cas en fait. Après, il y a des gens qui confondent en fait à l'heure actuelle les mescales avec la mescalina, par exemple, qui est une boisson avec des autre plante en fait, une variété de cas.
Et la mescaline alors aussi
Non, ça c'est une autre chose.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. D'accord. Mais sinon, les effets de mescal sont assez spéciaux.
Oui.
Et il faut voir les. C'est comme tous les alcools durs, quelque part.
En fait. Il y a de la littérature, les gens ont dû en parler de ça.
Oui, il y a par exemple Bolaño, le Chilien qui a vécu au Mexique pendant je ne sais pas combien de temps. Il a écrit Les Détectives Sauvages, en fait. Et il fait référence à Mescal Suicidas. Putain, combien de. Les Mescal Suicidas, c'est le nom d'un personnage qui trouve une marque de mescal dans les années 70 au Mexique, à la ville de Mexique, où il s'appelle Les Mescal Suicidas. Et du coup, à un moment donné, je me rappelle, il y avait des gens qui arrivaient à Oaxaca à chercher les mescal suicidas. Et on s'est dit, mais non, c'est quoi ça? Ça n'existe pas.
C'est un roman, quoi.
Mais c'est la même chose, en fait, avec la question de la dénomination d'origine contrôlée, puisqu'ils arrivent au Mexique, ils disent, il est où le village mescal?
Ah oui, d'accord.
Mais ça n'existe pas, les mescal. C'est pas Gaillac, c'est pas Bordeaux, ça n'existe pas. C'est compliqué. Mais après, c'est les marchés.
Et les effets, alors, qu'en ont dit les poètes ou les artistes, qu'est-ce qu'ils en ont dit?
Ah, mais ils adorent ça, puisque c'est hyper puissant, en fait. Et il faut savoir que ça prend un peu de temps à bien déguster les mescales. C'est pas évident. Quand tu connais pas, c'est fumé, c'est fort. Et puis, reconnaître les types de variétés, il faut vraiment s'encourager tous les jours à boire du mescal pour trouver les différences. Mais sinon, les effets, c'est comme tous les mescales. Entre guillemets, comme toutes les boissons
alcoolisées.
Si tu abuses, c'est catastrophique. Il faut pas trop abuser.
Et c'est combien de degrés, c'est quand même...
Ça commence, il y a des discussions, des débats autour de ça, mais les gens vont te dire, ça commence à 45.
Oui, c'est ça. Ben oui, comme tout alcool distillé, quoi.
Après, les mescales qu'on trouve ici en France, de l'industrie du mescal, ils font à partir de 35 degrés d'alcool, puisqu'ils veulent... Qui a le même niveau d'alcool que la tequila qu'on commercialise ici. Puisque si tu donnes une personne un alcool de 50 degrés, il va forcément pas trop aimer quand tu connais pas. Il y a des alcools à 80 degrés d'alcool. Et tu sais.
C'est pas loin de l'éthanol, là.
c'est un problème assez culturel, puisque c'est la même chose qui nous arrive à nous en tant que Mexicains avec les piments. Les gens ici, on a des remarques. Non, quand il y a beaucoup de piments, on ne sent pas les goûts. C'est pas vrai.
Non.
C'est pas vrai. C'est juste une question d'habitude, en fait.
Non, mais c'est aussi une question de comment le préparer, etc. Ça ne se mange pas sec.
Non, mais même si c'est fort.
C'est fort.
Et on sait quand même savoir, on reconnaît les types de maïs, les types des spécies qui vont avec. Parce que ça ne mange pas non plus tout seul.
Alors donc, on parle beaucoup d'alcool, parce qu'en effet, c'est ça, le vernissage à Canal Sud. Alors, en effet, il y a le petit bar, la Mescaleria. Mescaleria, donc, vous pouvez en effet prendre connaissance, découvrir le mescal. Bon, après, il y a le vernissage habituel. Et il y a ces... Alors, combien de tableaux? Je n'ai pas compté.
On a 14 tableaux.
14 tableaux, qui sont, comme tu as dit, des 50-70, c'est des grands tableaux.
Oui.
Entourés de bois, tout simplement, nature.
Oui,
nature.
Tout à fait.
Et parce qu'il y a un fond... Un fond beige, comment il est, les lithographies, c'est pas du papier blanc. Hein.
Non, c'est des papiers coton, en fait, quelque part. Ouais, c'est des papiers coton, c'est des guarro, il s'appelle en espagnol, on dit ça.
C'est-à-dire guarro.
C'est le nom, en fait.
C'est la toile? C'est de la toile?
Non, c'est pas tout à fait de la toile. C'est 80% de coton et 20% quelque chose, une autre matière.
D'accord.
Du coup, ça, c'est... Quand on a reçu les tables, par exemple, il y avait des taches. Ils nous ont dit, en fait, vous pouvez effacer les taches avec un peu d'eau. Il y a une torsion en fait, puisque ça part.
Ah, tu peux nettoyer.
Ah,
voilà,
ouais,
ça c'est
ouais.
bien. Ouais, oui,
voilà,
d'accord.
Voilà. Voilà. Après, ces tables sont là, sont à la vente. Si jamais les personnes sont intéressées, mm-hmm. nous, on a un adresse mail.
Oui.
C'est lamescaleriatoulouse@gmail.com.
D'accord.
On fait des événements.
Alors, je pense que je crois que tu l'avais mis sur l'affiche.
Oui, il est sur l'affiche.
Voilà, et l'affiche, elle est. Vous allez sur le site de Canal Sud. Vous aurez sûrement en première page la semaine prochaine l'interview, l'entretien. Voilà. Et donc, vous pourrez lire cette adresse pour vous informer. Quoi.
Tout à fait.
Mais sinon, ben, vous avez encore le temps. Hein. Il est à peine. Vous avez le temps de venir au 40 rue Alfred Duméril pour voir cette expo. Alors, pour voir cette expo, plutôt pour déguster, hein, parce que le vernissage, c'est ça. Quant à l'expo, elle est visible tout le mois de septembre. Et il y a un texte, tu as fait un long texte qui explique quoi? Alors, dis-nous ce texte qui accompagne l'expo.
Il y a deux niveaux. Il y a d'abord l'explication des artistes, en fait, de l'exposition, les sens.
Oui, voilà.
Voilà.
Donc, ils sont tous de la région de Oaxaca, tu
as dit. Dans l'état de Oaxaca. Ils sont tous issus d'une école de toutes, en fait, d'art, quoi. Et ils sont tous dans ce domaine-là. Ils font des différentes choses. Il y a des collectifs au Mexique, et notamment à Oaxaca, sur ces sujets-là.
Est-ce que ça se fait de tailles différentes, sur des supports différents ou
Oui.
Eux, c'est un choix. C'est un choix esthétique. En plus, c'est très bien pour l'exposition. Puisque,
Puisque sinon, après, la taille, il n'y a pas de limite du moment où on peut faire des impressions.
Après,
il y a des machines plus longues et plus petites.
C'est
une question. Voilà. Mais aussi, les tables sont limitées. Il y en a entre 4 et 8 tables.
Et donc là, c'est tous des jeunes artistes.
Oui, tout à fait. Et moi, on a connu ces gens-là, puisqu'on a une personne en commun. En fait, on a parlé avec une des artistes, Josie Dominguez, qui est venue faire une résidence en Angleterre dans une école d'art. Et du coup, elle est passée par Toulouse, et par ici, on a fait le tour. Et on a discuté ensemble du projet, ça lui a plu. Il a amené la parole là-bas pour parler avec les gens. À la base, il y avait tout le monde qui était intéressé, mais au fur et à mesure, les gens, ils s'étaient un peu débordés. Et finalement, on a tiré 12 personnes, et donc 14 œuvres qui sont là.
Mais ça suffit, parce qu'il ne faut jamais trop surcharger une expo. Hein. C'est sûr que.
Oui, tout à fait.
Si on en met trop, après.
Je tiens à dire quand même que l'exposition, elle est disponible si jamais il y a des associations, des personnes, des festivals.
Il faut qu'elle circule, quoi.
Voilà. L'idée, c'est de circuler.
Et, toi, l'association,
il y a pas des frais.
Vous vous occupez complètement de toute l'organisation.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas des frais. Si c'est à Toulouse, on peut venir présenter. Si c'est ailleurs, par contre, il faut voir les disponibilités. Les cadres sont assez lourds à transporter, mais on a aussi les formats sans les cadres, en fait, qui sont plus faciles à transporter. Les rouleaux, Et puis
le deuxième texte, donc, parle
plutôt du projet de la mescaleria qui a commencé il y a 2 ans. Et l'idée, c'était de faire un peu de diffusion autour de mezcal. On vend du mezcal, on fait des dégustations. D'ailleurs, il y a une deuxième date, je ne sais pas si je peux profiter pour inviter aux gens. C'est le 13 octobre, ça se passe à La Candela, à l'espace Candela Saint-Cyprien. Voilà. Et c'est une dégustation, c'est un menu végétarien ou pas, ça dépend des gens. Il y a la dégustation de 2 mezcals avec un cocktail et 2 plats du Mexique avec un dessert. Voilà.
D'accord.
C'est pas trop. Voilà, c'est plutôt l'idée
D'ici le 13 octobre, vous pourriez venir en parler au magazine, si les gens. C'est bien. Parce que justement, là, tu nous as aussi amené à déguster. Alors, beaucoup haricots noirs, haricots rouges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Oui, il y avait un petit plat de dégustation. C'était un purée d'haricots noirs avec épazoté. C'est une herbe, en fait.
Oui, oui.
Des morceaux de tortillas, des triangles, connus couramment comme des nachos, mais on ne les appelle pas comme ça au Mexique, c'est des totopos, et avec un peu de fromage frais en fait, et accompagné des sauces au piment, qui ont produit entièrement ici en France avec une productrice qu'on a trouvée dans la région.
D'accord.
Qui sème des tomatillos, s'appelle ces variétés, et avec des chapulines.
Chapulinisme, mais on ne dira pas ce que c'est, vous venez les déguster.
Ouais.
Voilà. Après, il y a des boissons, il y a la boisson africaine, là. Moi j'appelle africaine, c'est marrant l'hibiscus.
Ouais.
Fleur d'hibiscus, moi c'est des africaines qui me l'ont fait connaître.
Hein. Ouais, ouais.
Voilà. Donc il y a des boissons sans alcool
tout
et tout ce qu'il faut. Et puis on oublie un personnage, je voudrais avant. Il y a Alan, c'est ça?
Oui, non, il y a deux personnages.
Qui font l'ambiance musicale.
Il y a Alan, il y a Ramon aussi.
Ramon.
Voilà, on est trois.
Ouais.
Et après, il y a tout un petit réseau d'amis, des personnes qui nous aident vachement quoi, pour tenir ce type de projet. Voilà.
Et Alan, donc, décide, il passe des musiques
Ouais, il est plutôt dans les domaines de la musique, il est DJ.
DJ,
oui. Un peu, oui. Et sinon, les trois, on est dans les domaines de la restauration quand même.
D'accord.
C'est pour ça
c'est pour ça qu'il y a tant de choses à déguster très bonnes.
C'est pour ça qu'il veut faire une chose différente, mais on va essayer de trouver un moyen.
Et ces morceaux de musique, dont notamment on en a passé ici à l'antenne, qu'est-ce que c'est?
C'était Lila Downs, non? La cumbia del mole, je pense, qui parlait sur les mezcals à Oaxaca. Elle est oaxaqueña aussi. Bon, son père est américain et sa mère oaxaqueña. Et c'était un cumbia qui part des plutôt.
Cumbia, c'est quoi?
C'est le genre de musique un peu dansante en fait, colombien à la base, bon bref, et qui parle de la culture à Oaxaca, notamment les moles, les chapulines, les mezcals, toutes les activités, toutes les fêtes qu'on trouve clairement dans des villages en fait, dans des villages assez authentiques.
Ouais. Et donc on va écouter, pour terminer, un autre morceau de musique que tu as choisi aussi, je sais pas.
Il y en a plusieurs.
Ouais. Et le contact, voilà, pour en savoir plus, pour que même sur le Mexique et tout ça.
Oui.
Alors les gens vont où alors pour avoir le contact?
D'accord, j'y répète quand même, on anime des soirées autour de mezcal, culture, dégustation, exposition, projection, plusieurs types d'axes en fait, d'actions. Et on est sur un compte mail qui c'est la mezcaleria avec Z, mezcaleria
Toulouse. Alors mezcal, M-E-S,
C,
mezcal.
M-E-Z-C-A-L
et I-E-R-I-E.
R-I-A. Voilà.
Ouais, on se débrouillera.
La mezcaleria.
Mescaleria.
La mezcaleria Toulouse, tout attaché, @gmail.com. D'accord. Et mon téléphone, je le donne quand même si jamais il y a.
Mais si tu veux, si des gens sont intéressés.
Ouais, 06-23-34-64-69. Voilà.
Attends, 06-23-34-64-69. Voilà. Donc ça, c'est parce que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on passe tout un moment avec le Mexique et du bon côté, du côté convivial.
Ouais.
Voilà. Donc merci beaucoup pour
avec
cette
plaisir.
Exposition.
On a un Facebook aussi, mais les réseaux sociaux, je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas, je ne sais même pas.
Les gens chercheront.
Ouais, voilà,
d'accord.
Si
ok. Merci bien. Merci.
Et donc, pour terminer, on écoute Lila Downs toujours, et cette fois, c'est Mezcalito.
Mezcalito, d'accord. Merci.
Merci
à tous. Allez, au revoir.
Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, dovigi, es por mi culpa, señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica de su cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. A la Virgen de los Remedios de Santiago Matatlán y a Sola de Vega.
ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar.
Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.